mode d'emploi.
Bonsoir, vous êtes sur 106.3, fréquence Paris Pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de ATTAC.
Et ce soir, nous avons pour invité Quentin, enseignant-chercheur à l'université, qui vient nous parler de la sélection à l'université.
Et la semaine prochaine, on aura Camp 2.
On aura Quentin après Camp 2, Camp 3, d'accord. Non, c'est la dernière émission pour ATTAC et le PIAF pour l'année scolaire. Mais en parlant d'année scolaire, nous allons parler de notre professeur préféré, Jean-Marc, qui va nous parler des chroniques d'actualité, parce qu'il y a de l'actualité quand même.
Alors, nous arrivons à l'été, et donc pour l'été, nous avons besoin d'un grand jeu concours. Alors, ce grand jeu concours, c'est le PIAF qui l'organise, en s'appuyant sur l'actualité. Pour ses lecteurs et ses auditeurs toujours plus nombreux, il s'agit de savoir et de deviner qui, de Jacques C, Nicolas S, Claude G, va obtenir le record de mise en examen pour un homme politique, puisque Claude G vient d'être une nouvelle fois mis en examen cette semaine. Les gagnants seront désignés par tirage au sort au Hilton de Tripoli.
Eh bien, est-ce que je peux jouer ? J'ai une petite préférence pour Claude G en ce moment, parce que j'aime bien le voir avec ses petites lunettes. Quand même,
oui, avec sa mine réjouissante, on l'appelle le point G.
Ouais. Bon, on gagne quoi ?
On gagne un séjour en prison à la santé.
Une visite, quoi. On passe visiter l'un des trois.
Comme au Monopoly.
D'accord.
Et sinon, dans le même ordre d'idées, il y a aussi une deuxième possibilité dans la lignée du Front National qui devient le Rassemblement National. L'affaire Big Malion va peut-être devenir l'affaire Big Macron avec l'affaire des ristournes de sa campagne électorale.
C'était petit.
Mais j'en avais
honte sur toi. Ensuite ?
Alors ensuite, on part en Turquie où les choses...
En Turquie vont... encore ? Ouais. Tu vas peut-être nous parler d'Erdogan, c'est ça ?
Et d'Erdogan qui joue sa chemise encore une fois, puisqu'il y a des élections anticipées, des élections à la fois législatives et municipales. Sauf que l'autocrate du Bosphore joue la suite de sa carrière le 24 juin, ce qui n'était pas arrivé depuis longtemps, puisque toutes les élections précédentes étaient pliées d'avance. Pour la première fois... Malgré le musellement de la presse, malgré le musellement de l'opposition et les incarcérations multiples, l'islamo-mégalo du Bosphore risque de ne pas l'emporter. Je dis bien risque parce que je suis encore très prudent, pour différentes raisons dont l'impact est difficile à mesurer dans l'opinion. Alors, la première de ces raisons, c'est que la situation économique qui avait toujours porté le petit dictateur de l'Est se dégrade de plus en plus en Turquie. Et donc, en général, quand la situation se dégrade, les gens rouvrent les yeux, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Deuxième chose, le super dictateur du Bosphore se vantait de ses performances économiques, mais aussi de la bonne santé du pays. Or, la dette du pays, et un rapport vient de le dire, a explosé pendant ses années de pouvoir de façon vertigineuse. Et les marchés internationaux, pour une fois, ils peuvent servir à quelque chose, commencent à très mal noter la Turquie et le crédit se fait rare pour les projets pharaoniques de Erdogan, qui voulait faire de la relance économique en faisant des grands travaux, et notamment un canal pour doubler le Bosphore et les détroits. Quatrième chose, l'opposition, malgré tous ses musellements et malgré tout ce qu'on a tapé dessus ces dernières années, reprend du poil de la bête et semble vouloir enfin donc cesser de se déchirer pour essayer de faire tomber le pacha. Donc avec un peu de chance, la Turquie et le monde seront débarrassés de ce sinistre pourri. Il ne restera plus qu'à faire chuter Trump, Poutine, Macron et quelques dizaines d'autres nuisibles.
Tu ne cites pas les Italiens, tu les trouves sympathiques?
Non, ils sont encore trop frais.
Ils sont trop frais. Alors, je n'ose même pas dire le nom de ta prochaine chronique. Tu l'as appelé « Le bon noir ».
Oui, parce qu'aujourd'hui...
Tu voulais dire « Le bon nègre », non ?
Ah non, ça c'est raciste. Le bon noir, c'est mieux. Parce que nous sommes modernes et nous avons un président moderne qui a des idées de 1850, mais qui est up-to-date et qui met de l'anglais partout. Donc, on sait un bon noir, c'est pas un bon nègre. Et il faut pas oublier que le président que nous avons a parlé lui-même des mâles blancs dans l'une de ses interventions. Et donc, j'ai trouvé que le bon noir allait bien avec le mâle blanc. Alors, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? C'est le fait divers que tout le monde a vu dans le 18e arrondissement, ce jeune Malien que la presse a surnommé Spider-Man, qui est allé sauver un petit garçon en grimpant sur la façade. Bon, jusque-là, tout le monde connaît. Ironie de l'histoire, et c'est là que ça devient drôle, c'est que pendant que le héros du jour était reçu à l'Élysée, ses compagnons d'infortune étaient évacués sans ménagement par les CRS du énième campement où ils étaient regroupés. Cette superposition schizophrénique des actes de l'exécutif montre une fois encore le fossé entre l'être et le paraître gouvernemental. D'un côté, l'instrumentalisation, la mise en scène, le surjeu du cabotin Macron, et de l'autre, la machine à broyer de l'humain, à broyer de la dignité, du sinistre de l'intérieur. D'un côté, l'exception, le bon noir sans papier qui en a du jour au lendemain, de l'autre, la masse des anonymes suspects par nature.
On comprend mieux ce que tu voulais dire par le bon noir, là, au bout de l'histoire. Alors, un dernier thème qui fait un peu l'actualité, c'est la Méditerranée en problème.
Ah oui, alors la Méditerranée, il y a une grande campagne de WWF sur le fait que la Méditerranée est en train de devenir une poubelle plastique. Et cette grande campagne, je trouve, est un petit peu déplacée, quoi. Parce qu'il faut dire que la Méditerranée n'est pas qu'une poubelle à plastique. Il y a plein de migrants dedans, il y a plein de poissons morts, il y a plein de boues différentes. Et donc, je trouve qu'il faudrait enfin prendre des mesures concrètes. Et comme cette mer est dégueulasse, comme il y a justement plein de choses dedans qui sont néfastes pour les poissons, je propose d'en faire un immense supermarché, de bétonner la Méditerranée, ce qui facilitera le passage et la surveillance des frontières en même temps, ce qui évitera d'avoir des images dramatiques pour les journaux télévisés, et enfin du bon vieux béton pour réunir l'Afrique à l'Europe, ce qui permettra de mieux la recoloniser.
Voilà, c'était un petit peu les chroniques du jour de Jean-Marc. On peut peut-être prendre aussi d'autres petits faits qui sont peut-être un peu moins d'actualité, mais qui ont du sens. On peut partir d'une constatation sur la fameuse réalité économique de l'embauche en France. C'est un article de Vincent Grimaud tiré de je ne sais plus quelle revue, je suis désolé, qui s'intitulait « Pourquoi les patrons peinent à recruter ?» C'est en fait d'alternative économique, j'ai retrouvé. Car en fait, on a 5,5 millions de chômeurs d'un côté, des entreprises qui déclarent avoir du mal à recruter de l'autre. À première vue, le problème du marché du travail français semble frapper du bon sens. Hein. D'un côté, il y a des besoins, de l'autre côté, personne. Donc, il n'y a rien qui est formé correctement. Mais est-ce que c'est si simple? Est-ce que c'est vrai qu'il y a des difficultés de recrutement? Alors on peut le voir, oui, les entreprises ont du mal à trouver des candidats. En fin 2017, la moitié des entreprises avaient signalé des difficultés à embaucher des salariés en contrat long. 32% avaient une indisponibilité de main-d'œuvre compétente. Ça, c'est des statistiques de l'INSEE. Alors évidemment, c'est une sempiternelle complainte du monde du patronat. Mais en fait, non, on arrive même à dire qu'ils arrivent à embaucher. 48% des embauches de plus d'un mois étaient en CDI sur la fin 2017. Donc ils arrivent quand même à embaucher. C'est vraiment qu'il manque parfois de compétences. Alors est-ce que c'est si vrai que ça? Non, parce qu'il y a une éclaircie en ce moment sur l'économie. Il y a un contexte d'amélioration du marché du travail. Il paraît que ça va se terminer, mais il y a eu 250 000 emplois qui ont été créés en 2017. Une belle performance qui fait suivre des années qui avaient une dynamique correcte. Du coup, c'est plutôt ouvert, l'emploi. Le taux de chômage est le plus bas depuis 2009, à 8,9 en France métropolitaine.
Officiellement.
Officiellement. Bon, avec les chiffres, on leur fait dire beaucoup de choses en mettant des gens en dehors de Pôle emploi qu'avant on comptabilisait à l'intérieur. Mais n'empêche que les indicateurs sont plutôt à la hausse. Même si on oublie de savoir ce qu'on compte, c'est plutôt à la hausse. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à embaucher? Alors il y a des fortes différences suivant les secteurs en réalité. Par exemple, dans l'industrie, 78 000 demandeurs d'emploi se partageaient sans offre en mi-2017. Donc c'est là où on voit la pénurie la plus forte. C'est dans l'industrie, entre autres. Donc dans ce cadre où ça va mieux pour le marché, le problème bien réel pour toutes les entreprises à trouver quelqu'un à embaucher, ça doit pas être surestimé. Hein. Beaucoup de gens en 2017 ont été jugés difficiles à recruter. Alors c'est des mots qui sont un petit peu difficiles quand on est soi-même demandeur d'emploi, mais 37,75% des projets de recrutement étaient jugés difficiles par Pôle emploi. C'est plus qu'en 2016, mais c'est moins qu'en 2012. Ça veut dire quand même qu'il y a des problèmes pour deux tiers des recrutements, ce n'est pas rien. Voilà. Mais alors la réalité, c'est un économiste de Pôle emploi, Éric Ayer, qui le dit. En période de croissance économique, les recrutements sont plus nombreux. Donc les difficultés temporaires pour trouver le bon candidat sont également plus nombreuses. Conséquence, Dès que la croissance ralentira, les difficultés de recrutement reculeront aussi. Finalement, c'est la hausse de l'embauche qui fait que dans certains secteurs où d'habitude des gens moins formés avaient l'habitude de se faire embaucher, maintenant ils sont embauchés ailleurs. Résultat, c'est dans certains domaines, peut-être avec moins de capacité de formation, où il y a des problèmes d'embauche. Alors, est-ce que de là, il faut critiquer sur la formation, comme on en entend beaucoup parler, et donc une logique adéquationniste? Il faut faire en sorte que les formations collent pile au marché de l'emploi. Ben, la réponse, quand même, elle est loin d'être vraie. Par exemple, François Hollande avait mis en place un projet pour former davantage vers le marché du travail le plus immédiat en formation professionnelle. Ça n'a pas l'air de correspondre aux besoins de l'industrie à ce jour. Hein, d'ailleurs, y a-t-il un vivier d'emplois important à disposition des chômeurs pour qu'ils soient mieux formés? On peut en douter, vraiment. Hein. D'ailleurs, Pôle emploi a essayé d'estimer le nombre d'offres non pourvues faute de candidats sur la pose des offres que propose Pôle emploi, et en extrapolant à toutes celles du marché. Bon, c'est un calcul qu'ils font eux-mêmes, on peut le mettre en cause, mais en France, il y aurait entre 110 000 et 180 000 postes durables non pourvus faute de candidats. Les combler face à des formations ciblées serait positif, mais ça ne fermerait pas baisser sensiblement le nombre de demandeurs d'emploi. On est à 5,6 millions. Bon, former spécifiquement pour un métier ne serait que sur une frange, en plus temporaire, on formerait des gens sur une formation longue pour un emploi qui ne garderait peut-être pas toute leur vie. Ça peut avoir des effets à court terme, mais ce n'est pas sûr que ça soit bénéfique à long terme. Voilà. Non, pas de réaction. Je trouvais ça assez surprenant comme réflexion par rapport à ce milieu de l'emploi. Alors on va faire une petite pause musicale avant notre invité. Et la pause musicale, c'est « You're Wrong » de NoFX. You're wrong about virtues of Christianity. And you're wrong if you never reproduce. You're getting high on the down low, a victim of the COINTELPRO. You're wrong, and we'll probably never know.
106.3 FP, fréquence Paris pluriel, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Alors le thème principal, grâce à notre invité Quentin, ça va être la sélection à l'université, évidemment Parcoursup. Alors on reçoit Quentin, bonjour Quentin.
Bonjour Pierre.
Et aussi on a Gaël avec nous qui formons avec moi un trio d'enseignants-chercheurs à l'université.
Bonsoir,
alors on se présente quand même à l'avance, on a aussi Jean-Marc pour venir faire...
Bonsoir Jean-Marc.
Bonsoir Jean-Marc. Le petit... pointe caustique, comme il en a l'habitude. Alors, on se déclare ici enseignant-chercheur parce que c'est un thème qui nous concerne, on ne va quand même pas le nier. Ça sera donc une vision du membre du personnel de l'université.
Une vision de l'intérieur de l'université, oui.
Mais de l'intérieur, parce que les médias ont beaucoup parlé de l'extérieur. Alors, on ne va pas dire de quelle université on est, mais c'est parisien. Hein. Alors, d'abord...
Bah, de toute façon, il n'y a pas d'université en province.
Il n'y a pas d'université en province, ouais.
Il n'y en aura plus dans quelques années.
Dans quelques peut-être. Années, peut-être. Ouais. Non, il y a quand même 85 pôles d'enseignement supérieur en France, répartis sur l'ensemble du territoire, et même à des endroits où on dit pôle, et pas pôle. Ouais. Donc, sur cette carte, d'ailleurs, la question peut se poser, qu'est-ce que l'université par rapport à l'enseignement supérieur? Alors, on ne va pas rentrer dans les grandes définitions, mais juste rappeler quelque chose qu'on oublie parfois, c'est que l'université, ce n'est pas tout l'enseignement supérieur, loin de là. Il y a ce qu'on appelle les grandes écoles, il y a aussi des grands établissements de formation. L'université, finalement, est la base pour faire venir tout ce qui n'est pas ailleurs, dans le renseignement supérieur. Sous-entendu, jusqu'ici, il n'y avait pas de sélection. Toute personne qui était détentrice d'un bac et qui n'avait pas été mise dans une autre part du monde de la formation supérieure avait droit d'entrer à l'université. Pas forcément là où elle voulait, hein, c'est ça la nuance, mais elle était censée pouvoir se former grâce à l'université.
D'où l'expression « bac is beautiful ».
Tout à fait. Alors, se former, c'est aussi une deuxième chose qu'il faut peut-être rappeler en tête de cette intervention. C'est finalement, l'université n'avait pas jusqu'ici, en tout cas pas dans sa grande majorité, but de former professionnellement. À l'issue d'une licence universitaire, sauf exception, on est rarement prêt à rentrer sur le marché de l'emploi. Même avec un master universitaire, il y a parfois un décalage effectif entre le métier où pourtant beaucoup de gens sont embauchés et la réalité, c'est-à-dire que l'université ne se préoccupe pas systématiquement de former en adéquation avec le monde du travail. Toute remarque avec la chronique juste avant la pause musicale est évidemment tout à fait fortuite.
Ce qui est bizarre, c'est que depuis qu'il n'y a plus de licences, il y a de plus en plus de licenciés.
Oh, elle était belle aussi, celle-là. Je pense qu'on va en avoir beaucoup, là, il est en forme. Donc, dans cette idée de formation à l'université, finalement, que sont les personnes qui rentrent à l'université? Et il y a une chose assez amusante, par exemple, si on s'amuse à prendre l'ensemble de tous les ministres sur un certain nombre de siècles, on trouve très, 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 très peu de ministres qui sont faits l'université. Seulement 10 des 25 ministres de l'éducation nationale et supérieure se sont succédés de 58 en 2016 étaient diplômés d'une université. C'est pas mal quand même, hein. Même les présidents de la République, Charles de Gaulle, École Saint-Cyr, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, François Hollande, Emmanuel Macron, évidemment, bon, nuance agrégée de lettres, sont tous passés par l'ENA. Georges Pompidou, École libre des sciences politiques, François Mitterrand et Nicolas Sarkozy sont passés un peu plus par l'université, mais ont passé l'expérience un jour des concours, pas des diplômes universitaires. Donc il y a quand même un décalage fort entre ce qui gère l'université et la réalité de cette université.
Ouais, pour rebondir là-dessus, Pierre, c'est une spécificité française en plus cette chose-là, hein, parce que tu parles des dirigeants politiques. En Allemagne, Angela Merkel, elle est docteur en chimie en fait. Hein, elle est passée par le système universitaire. Et c'est pas du tout un système qui fonctionne comme ça par concours. Hein, et c'est vraiment une spécificité française d'avoir séparé depuis Napoléon, hein, d'un côté un côté de grandes écoles. Prestigieuse, qui récupère les élites, et de l'autre côté, l'université, et qui forme, pour le coup, à des métiers de dirigeants d'entreprise, à des métiers techniques, qui sont des rôles qui sont assumés dans les universités, au sein des universités internationalement. Il n'y a qu'en France où on a cette dichotomie très forte, pardon, avec d'un côté un système sélectif qui forme à des métiers, à travers lequel passent toutes les élites, et d'un autre côté, un système qui a absorbé la massification de l'enseignement supérieur, qui est l'université, qui forme effectivement moins directement à des métiers, mais qui a un rôle, à mon sens, central dans, disons, l'éducation et la connaissance et la culture des membres de la société, quoi. C'est-à-dire que si on continue à accepter de ne pas former les gens, on risque d'avoir des retours de bâton très forts dans quelques années sur des questions politiques centrales, quoi. Et donc, cette question de savoir si on est une société assez riche pour se permettre d'offrir à tout lycéen qui le souhaite, tout jeune qui le souhaite, de se former 3, 5 ans à l'université, c'est une question même de projet de société, en fait. Est-ce qu'on veut permettre à une classe d'âge de... Voilà, est-ce qu'on dit, voilà, on est un pays assez riche, on est une société assez riche pour offrir ça, que ça soit de la sociologie, de l'histoire ou de l'ingénierie informatique, à qui que ce soit, indépendamment des débouchés.
Et justement, cette classe d'âge qui débarque à l'issue du bac, elle n'a pas vraiment d'emploi qui l'attende. Hein. Le marché du travail n'est pas adressé aujourd'hui à la jeunesse, et l'université est aussi... à la fois un lieu d'émancipation, on peut l'espérer, mais aussi un lieu de mise en attente d'une jeunesse pour l'occuper.
C'est peut-être aussi une question de philosophie. Avant ou après le bac, c'est un peu le même problème. C'est-à-dire, est-ce qu'on fait l'éducation pour l'émancipation de gens qui réfléchissent et de futurs citoyens, ou est-ce qu'on les formate pour un métier ou pour une fonction? Et c'est aussi, pour moi, la dichotomie entre l'université et les grandes écoles. Les grandes écoles sont des lieux de formatage sociaux, autant que d'apprentissage de compétences, alors que l'université est un lieu d'émancipation.
Alors on peut faire un petit point historique aussi, on avait dit qu'on en parlerait, parce que une des raisons du développement qu'on a pu connaître en mai 68, c'était justement un problème d'accès à l'université pour tous, de manière avec des meilleurs moyens, plus de lieux d'enseignement et aussi des matières nouvelles, qui ont d'ailleurs donné lieu post-68 à la création de nouvelles universités et des disciplines plus à même de former, d'émanciper la population.
Donc bien sûr, il y a l'exemple bien connu de la faculté de Vincennes qui se crée après 68, mais en fait, ce qu'il faut ce qu'il faut bien voir si on regarde l'évolution du système universitaire français depuis le début du XXe siècle, en fait, c'est qu'on partait d'un système très concentré autour, par exemple, en région parisienne, d'une université de Paris, avec des doyens de faculté qui étaient des régions, disons, disciplinaires au sein de la faculté de Paris, qui explose avec 68, qui voit la naissance d'un grand nombre d'universités qui deviennent qui n'ont plus un savoir universel, qui on va avoir des universités dédiées aux sciences, des universités dédiées aux lettres, des universités dédiées au droit, et qui se basent sur les anciennes facultés. Et donc en fait, cet éparpillement a duré, disons, une grande part de la fin du XXe siècle, et avec l'arrivée, c'est quelque chose qui arrive fin des années 90, début des années 2000, une dynamique de recentrage autour de pôles en compétition les uns par rapport aux autres. Et donc ça explose avec Pécresse et la LRU, la loi d'autonomie des universités en 2009 notamment, la deuxième version, qui donne l'autonomie aux universités, c'est-à-dire l'autonomie qu'elle avait perdue après 68, en fait, d'une certaine manière, et qui, paradoxalement, et qui, au lieu de permettre d'autonomie, disons, éducative, pédagogique, de recherche, va faire une compétition renforcée entre les universités, et on l'a vu au niveau, moi je suis enseignant-chercheur, on le voit au niveau recherche depuis une dizaine d'années, c'est terrible, on n'est plus des collaborateurs, mais on est vraiment en compétition. Et là, ce que va nous faire le changement au niveau du moyen de recrutement, c'est-à-dire la mise en place de Parcoursup, ça va changer la compétition au niveau de l'enseignement et du recrutement des étudiants. Donc on passe d'une compétition recherche à une compétition à la fois maintenant enseignement, et bientôt probablement sur des questions d'attractivité internationale également.
C'est-à-dire qu'il y a à la fois une concurrence des étudiants entre eux pour entrer dans les établissements, et des établissements entre eux pour attirer les meilleurs étudiants s'ils sont des entreprises concurrentes.
C'est évident que il y a un truc qui m'intrigue, moi, dans toute cette dynamique, c'est le fait que toutes les universités se vantent d'attirer des étudiants étrangers, chinois notamment, par dizaines, en étant très connus à l'étranger. Et en fait, dans le système actuel où les universités françaises sont gratuites ou quasiment gratuites, c'est intriguant que ça soit un objectif d'attirer le plus d'étudiants chinois qui vont faire 3-5 ans ici et repartir en Chine avec les savoirs qu'ils ont appris là. Alors c'est peut-être une vision idéaliste, universelle, de donner du savoir à tout le monde. Moi, plus prosaïquement, j'ai peur que ça soit juste anticiper un changement brutal au jour où on va s'autoriser, en tant qu'universitaire, hein, mais où ils vont s'autoriser à augmenter, faire sauter cette barrière de la gratuité universitaire, et mettre des frais d'inscription. Et là, on rentrera complètement dans le marché que tu décris, de dire, mais voilà, les universités sont en concurrence pour attirer le plus d'étudiants et les faire payer de plus en plus cher.
C'est aussi la conséquence des classements à la noix faits par les universités chinoises et autres, qui suivent les classements à la noix des lycées, des hôpitaux. Et à chaque fois qu'on fait des classements, ça fait des concurrences et ça diminue la qualité du service public, c'est tout.
En tout cas, la mise en concurrence est avérée et elle prend du poids, et il faut la mettre à l'aune des chiffres. Alors, si on regarde la massification d'enseignement, on se rend compte que le nombre d'étudiants augmente constamment depuis une décennie. 1,4 million à la rentrée 2006, 1,62 million 10 ans plus tard. Entre 2009 et 2015, on peut compter 280 000 étudiants de plus. Alors ça se compare au nombre de postes. En 86, il y avait... Cette année, au concours, il y avait 1986 postes d'enseignants-chercheurs pour la rentrée prochaine, 2018. C'est la première fois qu'on est passé en dessous de 2000 enseignants-chercheurs recrutés pour la rentrée prochaine. En 2017, c'était 2202. C'était pas beaucoup plus, mais c'était 3613 7 ans plus tôt. La baisse est constante. Entre 2010 et 2018, le nombre de postes ouverts au concours a ainsi réduit de 45%. En 2016, sur les 70 000 enseignants titulaires d'enseignement supérieur, il y avait 30 000 non-titulaires. C'est aussi une évolution complète de la profession. Et dans cette idée-là, Ça veut dire que quand il y a 280 000 étudiants de plus entre 2009 et 2015, il y a 7147 postes de titulaires en moins. C'est quand même impressionnant de dire qu'on met de plus en plus de monde à l'université avec de moins en moins de personnel face à eux.
Non, puis c'est quelque chose qu'on ressent fortement en fait maintenant dans les universités. Hein. Le fait que les amphis débordent, c'est pas uniquement des images pour faire bien en septembre sur le journal de 20h. C'est amusant. Je disais tout à l'heure à un ami que j'allais faire une émission de radio ce soir là sur l'entrée à la fac, et sa réponse a été oh, l'entrée à la fac. Je vais le citer. Hein, malgré la violence de la découverte des amphis en surbooking, ça reste une expérience enrichissante, mais très désagréable. En fait, c'est ça qui reste dans la tête des gens qui arrivent. Ils sortent d'un lycée à une trentaine de personnes et puis ils arrivent dans un amphi bondé où, en fait, au bout de quelques semaines, il va y avoir des gens qui vont être décrochés. Il y a un pari, en quelque sorte, fait sur ce décrochage parce que il y a, même si on arrive à caser tout le monde, et on va le voir avec les algorithmes qui ont été mis en place cette année, c'est pas gagné que tout le monde trouve une place. Mais même s'ils arrivent à trouver une place pour tout le monde, dans beaucoup de cas, c'est une place virtuelle, puisque au bout de quelques semaines, à être force d'être debout au fond d'un amphi, les gens abandonnent. Hein. Donc c'est bien ça qu'il faut garder en tête.
Le rapport du Conseil national d'évaluation du système scolaire indiquait que la France était le pays le plus inégalitaire en matière d'éducation parmi les 35 membres de ce qu'on appelle l'OCDE, c'est-à-dire les pays occidentaux. On est descendu au plus bas rang sur l'enseignement.
Oui, mais il faut voir aussi que c'est un problème de longue haleine, en fait, parce que dans les années 78 à 68, justement, on a voulu faire la massification de l'enseignement dès le collège, avec la création des CES. Le problème, c'est qu'on n'a jamais mis les moyens correspondants. Et depuis, donc, la réforme Abi en 75, en fait, le système scolaire court après la massification sans en avoir les moyens. Donc, la massification est une idée superbe, mais qui a toujours été, donc, mise de côté par le manque de moyens. Et on retrouve aujourd'hui ce même problème à l'université, c'est qu'on ne peut pas massifier si on n'a pas de moyens. Donc le problème qu'on a eu au collège dans les années 70-80, on l'a retrouvé au lycée dans les années 90-2000, et aujourd'hui on le retrouve à l'université. C'est quelque chose qui coule de source, c'est-à-dire qu'on a une politique de massification qui a été mal pensée au niveau du secondaire et qui à l'arrivée se retrouve à l'université. Et l'autre chose, c'est au niveau du gouvernement Jospin, quand Jospin était ministre de l'Éducation nationale et qu'il a sorti son fameux truc des 80% d'une classe d'âge au bac, tout le monde s'est cru, et toute une classe d'âge a voulu aller à l'université. Sauf qu'on n'avait absolument rien prévu pour ça. Et depuis, on court après les moyens et avec l'orchestre du Titanic.
Ce qui n'empêche que sur le papier, il y a à peu près autant de places dans l'enseignement supérieur qu'il y a de besoins, simplement, comme on vient de le dire. Il y a des places dorées à Polytechnique et des places au fin fond de l'amphi qui puent dans une fac de banlieue.
Sauf que si on veut avoir une université qui fait de l'émancipation et de l'ouverture d'esprit, il faut pas autant de places que d'étudiants, il faut plus de places que d'étudiants, parce que d'abord il faut pouvoir faire des doubles cursus, et ensuite il faut prévoir que tous les étudiants vont pas choisir exactement les mêmes filières. Donc ça veut dire que le nombre de trous doit être supérieur au nombre de candidats.
Alors on va revenir là-dessus justement, parce que tout le but de ce débat c'est la sélection, mais pour parler de sélection, il faut savoir ce qu'on veut dans la vie, et c'est ce que nous expliquent les cow-boys fringues. TQ.
Trouver un peu d'équilibre, pour le reste il s'en fout ben, si tu as ta demain.
Fréquence Paris Pluriel, 106.3, l'émission Mode d'emploi, l'émission des chômeurs et des précaires, avec ce soir des journalistes du PIAF et des membres de Attaque.
Et nous avons donc parmi nous Quentin, enseignant-chercheur, qui a bien travaillé, vu qu'il a participé un peu à l'esprit de sélection dans son université. Mais il l'a peut-être pas fait comme tout le monde, il l'a fait de manière très critique. Alors il nous apporte tout son savoir là-dessus, en partant du principe que finalement, on en a parlé avant, pourquoi sélectionner, comment, etc. Mais là, la logique de cette rentrée future, c'est que depuis ce printemps, il faut sélectionner. C'est-à-dire non pas savoir qui doit y aller, mais plutôt comment répartir.
Oui, Pierre, c'est un peu ce qui s'est joué là, à moins que vous étiez sur une île déserte depuis les 6 derniers mois. Vous avez forcément entendu parler de cette histoire de APB, du tirage au sort. Le tirage au sort, on a entendu ça en long, en large et en travers. Hein. J'ai l'impression que c'était le gros mot qu'il fallait le plus prononcer, le tirage au sort. Puisque l'an dernier, une partie des lycéens avait été affectée au tirage au sort dans l'enseignement supérieur. Donc, avant d'aller discuter comment ça s'est fait cette année, j'aurais bien aimé revenir sur cet intox qu'on nous a martelé et qui, quand même, moi, me chagrine un peu. Puisqu'il y a eu deux tirages au sort dans APB. APB, ça s'appelait admission post-bac, c'était le mécanisme qui permettait d'affecter les lycéens dans l'université, enfin dans l'enseignement supérieur l'année dernière. Donc, la réforme qui a été mise en place cette année s'appuie sur le naufrage d'APB, soi-disant. Donc, ce naufrage, il est lié au fait que une partie des lycéens avait été affectée à l'université par tirage au sort. Et ce que je disais, c'est qu'il y a deux mécanismes de tirage au sort. Le premier est un mécanisme qui, à mon sens, est même bénéfique, en fait. C'est-à-dire quand, par exemple, en sciences, en Île-de-France, il y a moins de demandes que de places. Donc, il faut juste allouer les lycéens au sein des différentes universités. Il y a l'Université Paris 6, Paris 7, Paris 11, Paris 13. Toutes ces universités offrent des formations de mathématiques, par exemple, et il faut allouer les lycéens au sein de ces différentes universités. Et donc, la méthode de tirage au sort permettait de répartir les têtes de classe dans toutes ces universités, les intermédiaires dans toutes ces universités, et les fins de classe, les moins bonnes moyennes, disons, aussi dans toutes ces universités. Et donc ça permettait d'avoir un équilibre territorial, un équilibre au sein des promos qui permettait de faire monter globalement le niveau moyen. Parce que Pierre, je te laisse peut-être nous donner ton avis là-dessus, sur le côté pédagogique par rapport à une classe comme ça.
Ah, disons que c'est une connaissance pédagogique qui est un peu du savoir commun, mais que certains, évidemment, sociologues ont travaillé. C'est que le niveau moyen d'une classe, quel que soit le niveau d'ailleurs, il est plutôt fait du niveau des élèves qui rentrent. Alors évidemment, il y a l'effort formidable des enseignants qui vont faire monter ce niveau, mais si on part de bas, on va pas aller jusqu'à les faire entrer dans je sais pas quelle capacité supérieure. Ils vont monter, ils vont progresser. Si on prend une classe de très bons, on va pouvoir les monter très haut. Et c'est une classe finalement un peu plus disparate, un peu plus hétéroclite, pour laquelle on va pouvoir monter davantage, parce que les moyens vont pouvoir rattraper des bons. Alors, peut-être que les bons sont peut-être pas aussi bons que s'ils étaient ailleurs, mais enfin, c'est un problème de société dont on parle, un petit peu comme un problème de vaccination, finalement. Est-ce que l'on veut une société tous intelligents ou juste avoir une élite?
Oui, tout à fait. Et cette question de la répartition entre les différents sites était faite par le tirage au sort et c'est selon moi une bonne manière de répartir ces lycéens. Le deuxième, et ça concernait quand même une grande partie des tirages au sort. Celle qui était plus inadmissible, c'était celle où des étudiants voulaient faire une filière et il n'y avait pas de place nulle part en France pour qu'ils puissent faire cette filière. Ils étaient mis de force dans une autre filière qui n'était pas la filière de leur choix. Imaginez, vous voulez faire de l'informatique, on vous dit finalement vous allez faire de l'histoire. Évidemment, le taux de réussite en licence,
sociale.
C'est une promotion sociale peut-être, mais
moi,
je n'ai pas de jugement de valeur sur les matières. Je leur conseille de faire de la physique de toute façon. Mais non, mais plus sérieusement, ça c'était un vrai problème. Mais ça concernait une infime minorité des cas. C'est-à-dire il y a eu moins de 1% des cas où il y a cette chose-là. Alors faut pas nier que 1% des cas, ça peut être des drames pour un certain nombre de lycéens. Mais le tirage au sort était massivement employé par contre pour faire de l'égalité ou disons de la répartition et du travail en termes de territoire, d'avoir des classes homogènes au sein d'un territoire. Et ça, je pense que ça, c'est complètement perdu, on va le voir, dans le mécanisme actuel.
Alors le mécanisme a été donc dénoncé par notre Jupiter préféré à tous, qui s'est étonné que 60% des bacheliers arrivent à l'échec en licence, en poussant parmi les plus méritants d'entre eux, à cause du tirage au sort, dans des filières universitaires qu'ils n'ont pas choisies. Et c'est vrai que 60%...
C'est depuis qu'il y a des banquiers qui se tapent leurs profs, hein.
Oui, c'est une bonne remarque, très très sensée celle-là. Et la remarque de Macron, encore pire, c'est qu'il voulait faire en sorte d'arrêter de faire croire à tout le monde que l'université est la solution pour tout le monde. Alors, c'est pas pour autant qu'il a proposé une solution alternative, hein, mais c'est un peu l'âme de sa réforme. Et sa réforme, elle a abouti à Parcoursup.
Alors sa réforme, ça s'appelle quand même la loi orientation et réussite étudiante. Donc on a dit qu'on allait changer le mode d'admission à l'université pour faciliter l'orientation et la réussite des étudiants. Donc je vais vous décrire un peu de l'intérieur comment ça s'est fait et vous allez me dire à la fin si vraiment vous pensez que ça allait favoriser la réussite et l'orientation des étudiants. Donc on a découvert, disons en décembre, qu'on allait recevoir, disons pour une grande université parisienne, environ 10 000 dossiers par filière, par portail. Et ces 10 000 dossiers qui allaient contenir des notes, des fiches à venir, donc c'est des évaluations un peu détaillées des enseignants, une lettre de motivation, un CV... Et que sais-je d'autre, les notes du bac, de première, voilà. Donc il y a un gros dossier comme ça par candidat, et on avait 10 000 candidats typiquement pour 500 places, hein. C'est ça à peu près les chiffres sur les universités parisiennes. Donc c'est tombé sur le dos des collègues enseignants-chercheurs de prendre ces 10 000 dossiers et de devoir les classer. Puisque ce que nous a demandé le ministère, c'était de leur rendre une liste classée de ces 10 000 personnes, du premier au 10 millième. Alors, toute la philosophie de cette réforme, politiquement correcte, c'est de dire « l'université est accessible à tous, on ne dira non à personne ». Effectivement, toute la liste du premier au 10 millième reçoit un oui lors de la procédure Parcoursup. Sauf que, comme on ne va pas accepter 10 000 personnes demain matin, puisque là, ça risque de faire péter les murs, au-delà de la 500e place, ils reçoivent en fait un oui en attente. Et donc, on va pouvoir rester comme ça en attente, juste en attendant les désistements, mais aussi à la fin du processus, on est quand même en attente, ben ça s'appelle un non. Et donc, ce mensonge que là, on n'est pas en train d'assister à une sélection à l'entrée de l'université, il faut le dénoncer fortement. C'est pas parce qu'on répond oui en attente que ça veut dire oui à la fin. Oui en attente, ça voudra certainement dire non en non à la fin pour un grand nombre de lycéens. Donc, je vais juste donner quelques pistes un peu sans rentrer dans les détails de l'algorithme, hein, mais de comment ça a été fait. Donc, ce qui a été fait dans mon université, c'est globalement prendre les notes de, on est en sciences, donc un peu de maths, un peu de physique, un peu de biologie, faire une soupe comme ça avec les notes de première et de terminale et avoir un classement par les notes de l'ensemble des lycéens. Et ensuite, regarder quelques dossiers à la marge, c'est-à-dire là, on allait regarder les dossiers entre 10 et 13 pour savoir si l'algorithme fait maison avait pas un peu bugué sur certaines personnes pour les remonter un peu plus haut ou avait à l'inverse donné des trop bonnes notes à certains et les descendre un peu plus bas. Donc voilà, ça a été un travail de fourmi sur 6000 dossiers.
Est-ce que vous introduisiez une pondération selon le lycée d'origine ?
Alors, elle n'est pas faite, la pondération sur le lycée d'origine, sur le classement par les notes, mais elle est faite par les humains qui analysent. C'est-à-dire que les humains qui analysent, c'est des confrères enseignants-chercheurs qui ont été volontaires pour faire la sélection. Donc, certains d'entre eux avaient, on ne peut pas le nier, hein, dans l'enseignement supérieur, il y a une partie de nos collègues qui militent pour cette sélection-là, qui sont d'accord avec cette sélection-là, et qui ont été très contents de « oh là là, lui, il était dans un grand lycée parisien et il n'avait pas des si bonnes notes, on va le remonter dans la liste ». Et c'est pour ça que ce truc a fait à la main a été rajouté par-dessus, pour pouvoir sauver, je ne vais pas dire des fils de collègues, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire, si j'exagère.
Ou pas. Mais alors, donc, cet algorithme, on le voit, est une forte sélection dans ces nouvelles missions qu'on demande encore à l'université, qui ne le devait pas le faire, parce que la sélection d'origine, c'était le bac, et c'était 0-1. Tu as le bac, tu vas à la fac, t'as pas le bac, c'est plus dur.
Alors, je vais, sans révéler vraiment des secrets, je vais quand même dire un truc, c'est que, dans cette université, si on n'avait pas un bac S, on était mis au fond du classement, de toute façon. Il a été traité uniquement les bacs S. C'est-à-dire que c'était pas normalement la
pour une fac de sciences.
Pour une fac de sciences, on est d'accord. Hein, mais les gens qui ont fait un bac technologie, par exemple, option sciences de l'environnement, eux, ils ont été basculés tout en bas du classement en disant non, ici on prend que des bacs S. Donc non seulement le bac n'est plus un sésame pour l'enseignement supérieur de manière générale, mais en plus, au sein de ce bac, effectivement, ceux qui ont des notes faibles, on leur propose de faire une licence pas en 3 ans, mais en 4 ans, automatiquement.
Donc il y a déjà une vraie sélection, il y a même une façon différente d'entrer à l'université en fonction de son niveau. Donc finalement, la remarque, et on fait une évaluation qui remonte quasiment à la première, voire peut-être demain à la seconde. Donc c'est un véritable esprit de sélection qui demande à l'étudiant, enfin à l'élève à cette époque-là, de faire des choix alors que finalement ils savent pas forcément, enfin même peut-être tous ceux qui nous écoutent n'ont pas su ce qu'ils voulaient faire dans la vie avant un âge bien supérieur à leurs 16 ans.
Non, je suis d'accord, ça, y a un truc qui a été complètement oublié, qui a complètement aveuglé en fait les collègues qui ont mis ça en place, c'est... Le fait qu'il était possible de décider, de comprendre plus tard par quel domaine de science ou de discipline on était intéressé. Alors pour une fac de science où on fait des maths et de la physique, ils en ont déjà fait au lycée, c'est faisable. Mais des collègues qui sont dans la même université, qui font des géosciences, ou même de l'informatique, en fait, il y en a assez peu au lycée. Et donc, en fait, ces disciplines-là, c'est compliqué de savoir qu'on veut faire des géosciences quand on est au lycée et qu'on n'en a jamais fait. Et je parle même pas de droit ou de médecine. C'est quand même des disciplines auxquelles personne n'a touché. Et donc, avoir l'idée que tout est décidé à partir de la fin de la première et le début de la terminale, c'est quand même vraiment un système très typiquement dans la logique française de passons par des concours et en fait on fera émerger une élite.
Sachant que la réforme à venir n'est plus celle de l'université, ou peut-être il y en a encore qui nous attendent, mais la réforme du bac et même du lycée, avec peut-être disparition des filières, avec disparition... aussi du bac tardivement dans l'année de terminale, pour mettre en place une sélection potentielle qui va être celle du choix. C'est-à-dire que l'élève qui saura a priori décider de son avenir saura peut-être dès le CM2 faire quelle matière l'intéresse pour entrer dans tel établissement futur.
Ben, n'oublions pas que ça fait un certain nombre d'années que l'éducation nationale est traversée par un truc insidieux qui se met en place depuis le primaire et qui veut monter petit à petit, qui s'appelle le livret de compétences. Et ce livret de compétences, il y a bien un moment où il avait été déterminé par certains apprentis sorciers de l'éducation comme un livret qui suivrait l'élève de manière informatique depuis la maternelle jusqu'à l'université et qui rentre dans cette logique de présélection et de sélection permanente.
Non, mais c'est intéressant sur ça parce que on peut imaginer, comme tu le dis, là, Pierre, il va falloir mettre des stratégies de quelle matière prendre, dans quelle matière il faut être forte, etc. Mais en fait, moi qui ai suivi le processus de l'intérieur, j'aurais même été incapable de trouver ces stratégies. C'est tellement, les algorithmes qui ont été mis en place sont compliqués, locaux, totalement abscons. C'est impossible de trouver une stratégie. La seule stratégie, en fait, qui aurait pu exister, c'est une stratégie géographique. Parce que ce qui s'est passé à Paris en sciences, c'est vraiment une horreur en termes de mixité sociale. C'est que le ministère, après qu'on lui ait rendu un classement des 10 000 personnes classées sans regarder leur provenance géographique, le ministère nous a empêché de prendre plus de 26% de lycéens hors Paris. Donc on nous a dit, vous avez le droit, vous devez prendre... disons trois quarts de lycéens parisiens et un quart de lycéens non parisiens. Donc ça a été vraiment, ça va être vraiment violent pour les académies Versailles et Créteil qui sont autour, qui vont pas du tout pouvoir caser leurs lycéens dans nos universités. Et juste pour finir, parce que quand même ça c'est un truc qui m'a un peu dégoûté sur ce processus. Le ministère avait garanti quand même que on allait avoir une mixité sociale en mettant un quota minimum de boursiers. Je vous laisse deviner le quota minimum que le boursier nous a imposé, c'est 2%. 2% de boursiers dans une université parisienne, c'est peut-être un peu juste. Quitte à pas mettre des quotas, autant en mettre un peu plus élevé que ça.
À titre de comparaison, dans mon collège, les boursiers à l'entrée en seconde, c'est 30%.
Voilà, donc l'université qui n'était pas un lieu de mixité sociale pour ceux qui la réussissent, parce que c'est pas évident de réussir d'études supérieures si on n'a pas le milieu social, si on n'a pas l'argent des parents pour pouvoir ne pas travailler pendant ses études, etc., etc. Et bien toute cette sélection, on vient de conclure, ça va empirer la situation à un niveau qu'on n'imagine pas. Est-ce que demain l'université ne devra pas changer son nom pour être une sélectivité au lieu de université ? On verra ça. Mais il y a quand même des bonnes nouvelles. Et par exemple, on va fêter un anniversaire, Gaël, parce que ce sont les 20 ans de l'association ATTAC.
Eh oui. Être de gauche au début des années 90, c'était pas bandant. La fin de l'histoire a été proclamée. Elle était néolibérale pour l'éternité. On prenait du Alain Minc pour perpète. Et puis l'espoir est venu. Il y a eu décembre 95, puis la gauche plurielle, avec quelques déconvenues quand même. Et puis en décembre 97, en pleine crise financière asiatique, Ignacio Ramonet écrit un édito dans Le Monde diplomatique appelant à désarmer les marchés financiers, notamment par l'instauration d'une taxe sur les transactions financières, la fameuse taxe Tobin. Et aussitôt, des organisations du mouvement social, des médias comme Le Monde Diplo et Politis se sont réunies et ont fondé ATTAC, Association pour la taxation des transactions et l'action citoyenne. Et l'objectif, c'était de lutter contre l'emprise de la finance à l'échelle internationale. Le succès est fulgurant, 5000 adhérents en 6 mois, 10 000 en un an, 30 000 en 4 ans, une centaine de comités locaux et des ATTAC qui se créent dans le monde entier. C'est l'époque du sommet de l'Organisation mondiale du commerce à Seattle. À l'époque, les médias parlent des anti-mondialistes pour désigner ceux qui se combattent l'ordre néolibéral imposé par l'OMC. Mais ATTAC impose rapidement le mot altermondialisme, car l'association se veut résolument internationaliste, avec un mot d'ordre, un autre monde est possible. Les thèmes d'ATTAC se diversifient au fil des années, car l'emprise de la finance est partout. Par exemple, ATTAC fait le lien entre les questions économiques et écologiques. Ainsi, contrôler le réchauffement climatique, ça implique entre autres de contrôler les banques qui financent les grands projets polluants. En 2005, ATTAC joue un rôle majeur dans la victoire du non au traité constitutionnel européen, ce traité qui voulait graver dans le marbre les politiques économiques néolibérales. Et c'est paradoxalement à cette époque, à l'époque de ce succès, que l'association subit une crise interne, déchirée entre les proches de son président qui veulent transformer ATTAC en parti et les militants issus du mouvement social qui contestent l'autoritarisme du président. Finalement, les soupçons de fraude électorale à l'AG d'ATTAC de 2006 finissent par écarter le président sortant. À l'époque, les effectifs sont descendus à 5000 adhérents après avoir été à 30 000, mais ATTAC s'en est progressivement remis. ATTAC a évité le présidentialisme grâce à une direction collégiale et l'action a continué de plus belle grâce à la vitalité notamment des comités locaux. ATTAC a été défini par ses fondateurs comme un mouvement d'éducation populaire tourné vers l'action. Et comme le disent toujours les porte-parole de l'association, ATTAC a toujours cherché à marcher sur ses deux jambes, d'un côté l'expertise et la pédagogie, d'un autre côté l'action citoyenne qui figure dans le nom d'ATTAC. Une des grandes réussites d'ATTAC, c'est effectivement d'avoir fait en sorte que les questions économiques ne soient plus réservées aux experts. Chaque militant s'est formé et a formé ses concitoyens. Pour ce qui est de l'action, pendant longtemps, ATTAC a eu une image de mouvement d'intello grisonnant, pas très actif. Mais depuis 2015, un virage vers l'action directe non violente et la désobéissance civile a été pris. En particulier, ATTAC a occupé les Apple Store pour contester contre l'évasion fiscale pratiquée par Apple. Et vous vous souvenez sûrement du mouvement des faucheurs de chaises qui consistait à réquisitionner des chaises dans les agences BNP Paribas pour dénoncer l'activité de cette banque dans les paradis fiscaux. Et cette stratégie de désobéissance civile porte ses fruits. Sur Apple, la justice a débouté Apple de son action en référé et Apple a été condamné à rembourser ATTAC de ses frais de justice. La justice a même reconnu que ATTAC menait une campagne d'intérêt général. Et bonne nouvelle, hier, la militante Nicole Brien, qui était impliquée dans le fauchage de chaises et qui était poursuivie par BNP Paribas, a été relaxée. Le tribunal de Carpentras reconnaît que Nicole a mené une action de désobéissance civile sans intention délinquante qui ne saurait être caractérisée comme du vol. Par sa décision, le tribunal confirme donc la légitimité des actions d'ATTAC en matière de lutte contre l'évasion fiscale. Les porte-paroles d'ATTAC ont quand même le succès modeste. Ils disent, je cite, « Nous avons eu des victoires, mais celles-ci restent limitées. Le principe de la taxation des transactions financières est aujourd'hui reconnu, mais n'a pas encore été mis en application, de même que le renforcement de la régulation financière face au pouvoir exorbitant des lobbies financiers. La victoire du non au référendum européen de 2005 nous a été confisquée 3 ans plus tard, avec le traité de Lisbonne, ce qui a été un véritable déni de démocratie. » Alors qu'est-ce qu'on fait? On arrête? Eh bien non, pour ATTAC, la réponse est nette. On va poursuivre dans la voie de la résistance active face aux multinationales et aux défenseurs de la mondialisation néolibérale. ATTAC a 20 ans et encore plus dedans.
Et de plus en plus de jeunes adhérents. N'oublions pas, c'est quand même la bonne nouvelle de l'année, le nombre de nouveaux adhérents jeunes à ATTAC a fortement augmenté. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre ou de rejoindre une des nombreuses dates de l'agenda de ce mois de juin et de cet été, Jean-Marc.
Alors, samedi 9 juin à 13h, bloquons le salon de l'armement Eurosatory, parc des expositions de Paris Nord à Villepinte. Pour toutes les informations, www.désobéir.net.
Samedi 9 juin aussi, place Stalingrad, le grand départ du tour Alternativa, la plus grande mobilisation climat depuis la COP21. Pendant 4 mois, les cyclistes vont parcourir 5800 km. Sur des vélos, bien sûr, symbole de la transition écologique et de la solidarité. C'est à 14h samedi.
Alors, le lundi 11 juin à 20h, au restaurant Chez Trasouden, 3 places nationales à Paris, le collectif unitaire de soutien au peuple grec, 13e, 5e, organise un débat avec Patrick Sorin, porte-parole de Sud Solidaire, membre du CAC et du CADTM France, auteur du livre « Les prêts toxiques ».
Lundi 11 juin, toujours, il faudra choisir au cinéma Les Sept Parnassiens, boulevard Montparnasse à Paris. Attaque et l'association France-Palestine Solidarité organise une projection débat à la rencontre du pays perdu, un documentaire de Maryse Gargour de 2014 qui raconte l'histoire de Français nés en Palestine parce qu'ils sont nés dans les années 30 à Bethléem, à Jérusalem et qui ont vu depuis quatre générations la vie et l'évolution en Palestine. Ces Français sont d'autant plus attachés à cette terre qu'ils y ont vu grandir en toute sérénité jusque-là. La vie de leurs concitoyens palestiniens.
Mardi 12 juin, comme tous les seconds mardis du mois, en début de soirée à 19h au CICP 21 Terre rue Voltaire, c'est les mardis de GlobeNet. GlobeNet Nolorg, c'est une association militante au service de la liberté d'expression proposant des services internet. Donc mardi 12 juin à 19h au CICP.
Mardi 12 juin à 20h, Attaque Paris 15e et la Ligue des droits de l'homme Paris 15e organisent un débat « Comprendre et agir contre le mal-logement » au foyer de Grenelle, 17 rue de Lavre, à Paris.
Alors, vendredi 15 juin à 8h, devant la cité judiciaire de Paris, 2945 avenue de la Porte de Clichy, rassemblement de soutien à Rémi Filiot, suite à une action chez En Marche pour l'interdiction des armes nucléaires.
Vendredi 15 juin, toujours à midi, ne changez pas de lieu, toujours la cité judiciaire de Paris. Il y a un rassemblement pour la relaxe des inculpés du lycée Arago devant le TGI de Paris pour soutenir et demander la libération de tous les occupants du lycée Arago qui ont lieu le 22 mai à la fin de la manif.
Les 16 et 17 juin, à Maitrey, près de Tours, les troisièmes rencontres intergalactiques de l'Antipub.
Place de la République, le samedi 16 juin, il y a une manifestation contre la loi Asile-Immigration. C'est les super-héros contre l'État policier. La nuit tombe sur Panama City, une lumière traversée au ciel. C'est un oiseau, c'est un avion, c'est un charter. Le président Emmanuel, double face, dont le visage affable dissimule le côté droit, le profil d'un authentique réactionnaire, fait régner la terreur sur les réfugiés du pays. À ses côtés, le sinistre Gérard The Punisher, colon, ne peut soutenir sa joie après cette nouvelle expulsion. C'est lui, l'homme chauve-souris. Mais une manifestation de super-héros aura lieu ce samedi 16 juin à 14h30. Tremblez, Macron et Colomb, vous avez tort, nous avons tort.
17 juin, place de la Bastille, arrivée de la marche solidaire Vintimille, Londres, à Paris, manifestation de Bastille à République.
Le 23 juin à midi, c'est place de la République, c'est une manif pour les soutiens à notre santé à toutes et tous, hôpitaux déserts médicaux, accès aux soins.
Alors cet été, il y a plusieurs choses à faire pour vous occuper. Vous pouvez aller à l'Altervillage d'Attaque qui a lieu maintenant pour la 8e ou 9e fois sur la commune de Saint-Lys dans la périphérie de Toulouse. C'est un lieu de rencontre qui favorise les échanges où on met en pratique au travers d'ateliers une vie différente. On met en pratique les modes de vie alternatifs et on expérimente concrètement un autre monde. Toujours sur le même thème peut-être de la coopération et d'une vie un peu plus décroissante. Ce sont les festives de la décroissance en 2018 qui ont lieu les 21 et 22 juillet dans le petit village de Gelles, dans le Puy-de-Dôme. Et vous pourrez ici voir et approfondir toute la critique de l'individualisme qui seront explorées cette année. Le sens de la technique est une question politique.
Toujours dans le Puy-de-Dôme, le festival Label Rouge, le 27, 28 et 29 juillet à Saint-Amand-en-Chavine. Comme tous les ans depuis 2006, la compagnie Jolimôme invite son public à partager ses coups de cœur artistiques, politiques, dans un petit village, Saint-Amand-en-Chavine.
Et puis du 22 au 26 août, l'Université d'été solidaire, citoyenne et rebelle à l'Université Grenoble-Alpes, c'est organisé par ATTAC et d'autres mouvements sociaux.
Et on remercie tous les participants. On remercie bien sûr Quentin pour tout ce qu'il est venu nous dire sur la sélection université et sur l'algorithme Parcoursup. On remercie en la chronique Jean-Marc, Gaël et puis la technique Claude qui évidemment était là pour nous aider, mais nous avions aussi la présence bien agréable de Jean-Yves. Et nous terminons en écoutant Gamo de Malatou Astakté.